Bonjour. Aujourd'hui, nous offrons une section de texte tirée du média suivant, la presse. Au programme, l'architecture résiliente, une maison à l'épreuve des changements climatiques. Redonner un pouls au patrimoine, une pierre à la fois. Et des fleurs visibles de l'espace. Bonne écoute.
L'architecture résiliente, une maison à l'épreuve des changements climatiques. Un texte d'André Laroche paru le 6 mai 2023 dans La Presse. Le verglas a chassé des milliers de Québécois de leur chez-soi pendant quelques jours ce printemps. Ce nouvel épisode de météo violente devrait nous inciter à construire des maisons dotées d'une enveloppe résiliente, affirment des experts. De son propre aveu, Stéphanie Robillard-Sarganis a vécu l'enfer lorsque le verglas a provoqué une panne d'électricité de 2 jours et demi dans son quartier de Saint-Eustache au début d'avril 2023. En quelques heures seulement, la température dans sa maison construite en 1975 a plongé sous les 10 degrés Celsius. Nous avons dû dormir sous un tas de couvertures avec notre tuque sur la tête, se remémore cette éducatrice spécialisée, mère de 2 enfants d'âge primaire. Nous aurions bien voulu aller nous réfugier ailleurs, mais nous avions contracté une gastro en famille. Nous n'avions pas d'eau chaude et la nourriture du frigo était dans la neige. Ce cas n'est pas unique. Au matin du 6 avril 2023, près de 1,1 million de Québécois était privé d'électricité, ce qui a notamment incité la ville de Montréal à ouvrir 8 refuges d'urgence. Ce scénario risque de survenir plus souvent dans les prochaines années en raison des changements climatiques. En effet, selon Hydro-Québec, ces bouleversements mettront son réseau à rude épreuve avec la végétation croissante, les incendies de forêt, les espèces envahissantes et les précipitations extrêmes. Ces perturbations provoqueront aussi des vagues de chaleur de plus en plus intenses, selon Uranos. Sans chauffage ni climatisation. En effet, Dame Météo ne frappe pas seulement en hiver. Presque chaque été, le mercure bat des records et fait des victimes. À Montréal, la vague de chaleur de 2018 a causé la mort de 65 personnes, rappelle Dominique Thomas, chercheuse en génie civil à l'Université de Sherbrooke. Bref, en cas de panne de courant, nos maisons se transforment trop souvent en glacière en hiver et en four en été. C'est pourquoi, plaident les spécialistes, il devient impérieux de construire des maisons et des immeubles résilients capables de rester habitables pendant les canicules ou les froids hivernaux sans chauffage ni climatisation. La clé se trouve dans la qualité de l'isolation et dans l'étanchéité impeccable de la maison, explique Emmanuel Cosgrove, d'Écohabitation, un organisme voué à la promotion de la construction durable. La température dans une maison sans fuite d'air, dotée d'un vitrage triple et de murs épais avec une cote d'isolation de R49, ne variera que de 2 degrés Celsius en 3 jours lors d'une panne de chauffage ou de climatisation, affirme-t-il, études à l'appui. L'ensoleillement et la chaleur dégagés par les occupants permettront de récupérer les degrés perdus durant une nuit d'hiver. Pour illustrer son propos, M. Cosgrove fait l'analogie entre une bouteille thermos et une cafetière filtre. Le thermos va conserver le café chaud longtemps. La cafetière filtre doit continuellement rester allumée pour que la chaleur s'échappe par la vitre de la carafe, explique-t-il. Une question d'argent. Cette efficacité accrue augmente les coûts de construction, reconnaît Emmanuel Cosgrove. Mais cet argent sera vite récupéré en coût d'exploitation, ajoute-t-il. Écohabitation dispose d'ailleurs d'un catalogue de maisons en kit, dites passives, dont les coûts de chauffage se réduisent à environ 1 $ par année. Les consommateurs ne sont cependant pas prêts à payer pour cette qualité, se désole l'entrepreneur montréalais Simon Garraud de la firme De Vauban, spécialisée dans la construction de plex à faible consommation d'énergie. Quand je parle d'un projet certifié LEED, tout le monde part en courant. Les gens ont besoin de voir. Ils préfèrent mettre leur argent sur de plus beaux comptoirs plutôt que dans ce qu'il y a dans les murs, souligne-t-il. Vous écoutez L'architecture résiliente, une maison à l'épreuve des changements climatiques, un texte d'André Laroche, paru le 6 mai 2023 dans La Presse. Les règles de financement hypothécaire jouent contre la construction de qualité supérieure, a constaté pour sa part Patrick Ranger, directeur général de la firme Belvedere. Une isolation supérieure n'est pas prise en compte dans la grille d'évaluation d'une maison. Le surcoût n'est donc pas financé par les banques. Si ça coûte 50 000 $ de plus, les acheteurs doivent sortir cet argent-là de leur poche dès l'achat, affirme Patrick Ranger, directeur général de la firme Belvedere. Pour rendre la facture plus digeste, les architectes de Belvedere ont cherché où mettre l'argent là où ça compte, dit Patrick Ranger. Leur solution? Une fenestration thermos triple et une isolation des murs réduite à R33, tout de même 35% supérieure à la norme Nouveau Climat. La perte de chaleur sur une maison typique provient à 60% des fenêtres et à 12% des murs. Un vitrage thermos triple diminue à lui seul cette perte à 40%. À dollar égal, il est donc plus rentable de mettre l'argent sur des fenêtres de qualité, explique M. Ranger. L'opération Deep Energy Retrofit consiste à ajouter une seconde enveloppe isolante à l'extérieur ou à l'intérieur de la maison. Colmater les failles. Comment, alors, peut-on améliorer la résilience d'un bungalow des années 1970, par exemple, dont les murs extérieurs étaient construits à l'époque en simple colombage de 2x4? Plusieurs experts prônent une opération appelée en anglais « Deep Energy Retrofit », qui consiste en gros à ajouter une seconde enveloppe isolante à l'extérieur ou à l'intérieur de la maison. Selon l'organisme Retrofit Canada, situé à Edmonton, une telle opération peut augmenter de 70% l'efficacité énergétique d'une maison et réduire ses émissions de CO2 de jusqu'à 400 tonnes par année. Dans un monde idéal, c'est la meilleure des solutions, affirme Dominique Derome de l'Université de Sherbrooke. Mais, de manière réaliste, peu de propriétaires peuvent investir autant d'argent pour refaire leur revêtement extérieur ou pour réduire leurs pièces intérieures. Selon cet ingénieur, un premier gain d'efficacité peut être rapidement obtenu par une meilleure isolation du toit, par des fenêtres de qualité, mais surtout par une chasse aux fuites. Les bâtiments datant d'avant 1990 ne sont pas très étanches. On peut trouver facilement les failles par un test d'étanchéité. En colmatant les trous autour des fenêtres et des murs, on obtient un meilleur confort immédiatement. Isabelle Thomas, directrice du groupe de recherche AriAction, suggère pour sa part que Québec instaure un programme à l'intention des propriétaires désireux d'améliorer la résilience de leur maison, notamment pour éviter l'éco-gentrification. C'est évident qu'il faut les accompagner par une aide technique et financière dans ce processus, affirme la professeure de l'Université de Montréal. Du logement social et résilient. Plusieurs projets de logement social intègrent les notions d'enveloppe résiliente, affirme Emmanuel Cosgrove de l'organisme Écohabitation. C'est une bonne chose puisque c'est l'État qui paie le chauffage, dit-il. L'enveloppe résiliente dans les logements sociaux permet aussi aux personnes les plus fragiles d'éviter les refuges surpeuplés en cas de panne de courant, hiver comme été, souligne Daniel Pearl, architecte montréalais derrière le projet de la place Griffintown. Cet immeuble, dont la construction est prévue d'ici 2 ans, intégrera les notions les plus innovantes de l'enveloppe résiliente. Isolation supérieure, ventilation naturelle, végétation extérieure, absence de pont thermique, etc. Mon objectif est que la température se maintienne entre 15 et 30 degrés Celsius dans les logements pendant 72 heures sans électricité, résume M. Pearl. C'était l'architecture résiliente, une maison à l'épreuve des changements climatiques, un texte d'André Laroche paru le 6 mai 2023 dans La Presse. Redonner un pouls au patrimoine, une pierre à la fois. Un texte d'Isabelle Morin, paru le 6 mai 2023 dans La Presse. C'est la larme à l'œil que Lester Toupin s'est réveillé le 14 avril dernier, au lendemain de la cérémonie des prix Maestra qui couronne les artisans du patrimoine. La veille, il était récompensé pour sa restauration du plancher de mosaïque de l'ancien hôtel de ville de Maisonneuve, l'œuvre d'une vie. Tout le chemin parcouru pour me rendre là. C'est vraiment une grande reconnaissance pour moi, confie l'artisan en maçonnerie, encore ébranlé par ses honneurs. Construit entre 1910 et 1912, le bâtiment de style beaux-arts, converti en bibliothèque, a retrouvé son lustre. Il fait partie du site patrimonial de l'ancienne cité de Maisonneuve qui comprenait autrefois un hôtel de ville, un marché, un poste de pompiers ainsi qu'un bain et un gymnase public. L'ensemble se déploie dans le quadrilatère compris entre les rues Ontario et Notre-Dame-Est, le boulevard Pie-Neuf et l'avenue Morgan. Un budget de 43 millions de dollars a été accordé à la restauration de l'ancien hôtel de ville qui a sollicité 6 équipes d'artisans, dont des métalliers pour la porte d'entrée, des plâtriers pour le plafond et des artisans du vitrail sous la supervision de l'architecte Marianne Lacroix. Lester Toupin a eu le mandat de refaire une beauté à la mosaïque polychrome du hall central, un projet d'envergure qui exigeait minutie et savoir-faire, ne serait-ce que pour la restauration des armoiries de la cité de Maisonneuve. Pour y arriver, l'artisan s'est adjoint les compétences de Martine Bonin et de Geneviève Gamache, 2 vitrières membres du Conseil des métiers d'art du Québec qui avaient les outils et les connaissances pour couper et assembler l'impressionnante quantité de petites pièces de céramique. 60 mètres carrés de surface ont été restaurés, dont 7 qui ont dû être entièrement refaits pour former une fresque identique à l'original. Le projet, tout juste achevé, aura nécessité 16 mois de travail. Fumiste dans le sang. En 4 décennies de pratique, la truelle de l'artisan a permis de faire revivre plus d'un artefact d'architecture. Lester Toupin a d'abord été fumiste, dans le sens original du terme, qui évoque celui dont le métier est d'acheminer la fumée où elle doit aller, sans volonté aucune de jeter de la poudre aux yeux. Dit concrètement, il entretenait et réparait des cheminées anciennes. L'artisan raconte ce qui l'y a conduit. Quand j'étais jeune, mon père assurait l'entretien des fournaises à l'huile qui chauffaient nos appartements de Montréal, tout comme son propre père qui faisait le commerce du charbon et l'entretien des fournaises durant la crise des années 1930. Le fils a d'abord voulu s'éloigner de la trajectoire familiale en étudiant en éducation spécialisée, puis en fondant le Bouclier, un centre de réadaptation en déficience physique toujours actif qui compte plusieurs ramifications aujourd'hui. Chacun de nous a un rôle avec les compétences et le métier qu'il a. Je crois qu'on est tous les constructeurs d'une vie commune et qu'on se doit d'y contribuer, affirme Lester Toupin, artisan maçon. Une perte d'emploi le fera toutefois dévier de sa trajectoire et revenir à ses premières amours. « Je suis devenu ramoneur. Puis, tranquillement, j'ai compris qu'il fallait réparer les cheminées et pas juste les nettoyer. Son père lui a montré le métier. C'est toutefois de sa mère qu'il tient son côté artisan. C'est elle qui l'a initié à monter des murs de pierre, ce qu'elle avait appris de son père qui érigeait des barrages pour monter artificiellement le niveau d'eau afin de draver le bois. Pendant 3 étés, j'ai roulé des pierres et monté des murs de soutènement avec elle, se souvient-il. Ma mère était une artiste qui faisait n'importe quoi de ses mains. Elle créait des vêtements et concevait des costumes pour la troupe de Muriel Millard, ce qui fait qu'à 16 ans, je triais et assemblais des paillettes sur des corsets. De fil en aiguille, Lester Toupin a renoué avec cette fibre artistique et commencé à restaurer des foyers à l'ancienne, avant de s'ouvrir à la restauration patrimoniale et de fonder son entreprise de maçonnerie artisanale. Un métier en voie de disparition. La grande majorité des maçons travaillent selon une méthode industrielle. Très peu le font à l'ancienne et savent travailler les mortiers de chaux utilisés avant l'industrialisation, indique Lester Toupin. Graduellement, on a commencé à réparer des maisons anciennes avec des méthodes modernes. La plupart du temps, ça ne fait pas bon ménage et ça ne dure pas longtemps. Nous, on remet ça comme c'était avant, et en respectant le bâtiment d'origine. Travailler à l'ancienne implique souvent de partir de matériaux bruts et même d'aller chercher des pierres au champ s'il le faut, mais cette opération de conservation permet de préserver le passé pour les générations futures. Le nombre d'artisans spécialisés en maçonnerie traditionnelle se compte sur les doigts d'une main au Québec. Heureusement, on est en voie de renaître, nous dit Lester Toupin, artisan maçon. C'est pour protéger les anciens métiers du bâtiment qu'il est retourné sur les bancs d'école dans les années 1990 en sciences de l'orientation. Je voulais définir ce qu'est un maçon traditionnel, ce qui n'est pas le même travail que celui du bricteur maçon dont parle la Commission de la construction du Québec. Sa maîtrise a permis l'intégration des artisans du bâtiment au Conseil des métiers d'art en 2010 et de mettre sur pied un programme d'attestation d'études collégiales qui compte 9 options. Puisqu'il n'est pas du genre à se tourner les pouces, Lester Toupin a obtenu son permis de pratique en psychologie en parallèle de ses activités d'artisan du bâtiment et commencé sa pratique en cabinet, tout en faisant rouler son entreprise de maçonnerie tous les jours entre 7h et midi, avant d'aller tendre l'oreille à ses patients. Une double vie. À 70 ans, il refile volontiers les rênes de l'entreprise à son fils qui a suivi ses pas. Ça me donne beaucoup de liberté. Je n'ai plus à tout porter sur mes épaules. En même temps, je n'ai pas envie d'arrêter de travailler. J'aime trop ça. Il pousse à la roue et se réserve des contrats d'exception, comme celui de la restauration du hall de l'hôtel de ville. Ce travail, c'est la consécration. C'est mon œuvre la plus accomplie et la plus esthétique. Ça me touche le cœur de regarder les résultats. Lester Toupin dit savourer le bonheur d'être entré dans une nouvelle période de sa vie, celle qu'on appelle l'âge d'or. C'était redonner un pouls au patrimoine, une pierre à la fois, un texte d'Isabelle Morin paru le 6 mai 2023 dans La Presse. des fleurs visibles de l'espace. Un texte d'Éric-Pierre Champagne, paru le 7 mai 2023 dans La Presse. On l'appelle la super floraison. Un événement exceptionnel, aux couleurs spectaculaires, qu'on peut même observer de l'espace au-dessus de la Californie. Or, ce phénomène pourrait se faire rarissime dans l'avenir en raison des changements climatiques. Tour d'horizon en quadricomie. Une super floraison? C'est quoi cette nouvelle affaire-là? Ce printemps, la Californie est envahie par les fleurs qui font un retour remarqué après des années de sécheresse dans l'Ouest américain. On s'excite pour des fleurs. Ils sont fous, ces Américains. On ne parle pas de quelques fleurs, mais de champs entiers recouverts de fleurs sauvages, au point que le phénomène peut être observé de l'espace. Le 11 avril 2023, la NASA a publié des images prises quelques jours plus tôt par le satellite Landsat 9 qui effectuait un passage au-dessus de la Californie. Celle-ci montre une zone de la plaine de Carrizo, au nord de Los Angeles, où la couleur mauve se distingue clairement. Des images prises par l'Agence spatiale américaine 2 ans plus tôt présentaient un portrait fort différent, avec des champs durement touchés par la sécheresse. Ce sont des images remarquables en effet. Il semble que la nature reprenne ses droits, après tout. Pourquoi dites-vous que le phénomène est exceptionnel? Des chercheurs de l'Université de Californie ont compté 10 superfloraisons, super bloom en anglais, dans le sud de la Californie au cours des 40 dernières années. 9 fois sur 10, elles se sont produites après une période de précipitation plus importante que la moyenne. Des températures plus fraîches au printemps favorisent également l'émergence d'une superfloraison. Le dernier événement du genre s'était produit en 2019. La superfloraison de 2023 est un événement extraordinaire. C'est l'une des plus belles floraisons que j'ai jamais vues, souligne Naomi Fraga à La Presse. C'est un événement incroyable pour un botaniste, ajoute la directrice des programmes de conservation au Jardin botanique de la Californie. Ça fait triper les botanistes, ça me semble assez évident, mais à part les spécialistes, ça ne doit pas vraiment intéresser le public, cette super floraison. Vous êtes dans le champ, si vous nous permettez un jeu de mots. Cet événement est aussi devenu très populaire auprès de la population. En 2019, lors de la dernière super floraison, les Californiens ont été nombreux à visiter leurs champs pour y photographier des paysages spectaculaires. Il n'était pas rare de voir des files d'attente pour entrer dans des sites abritant de telles scènes. Visit California consacre même une section de son site web au phénomène et suggère les meilleurs endroits pour observer les plus beaux paysages fleuris. Je comprends, mais il s'agit probablement de gens qui sont des maniaques d'horticulture. Ils sont très nombreux, alors. En février dernier, les autorités ont annoncé la fermeture du site Walker Canyon, au sud de Los Angeles, pendant toute la durée de la floraison, afin d'éviter le scénario cauchemardesque qui s'est produit en 2019 lors de la dernière super floraison. Cette année-là, les automobilistes s'arrêtaient carrément le long de l'Interstate 15 afin de photographier le paysage. La California Highway Patrol a dû y envoyer des agents pour gérer le trafic et l'un d'eux est mort, après avoir été happé par une voiture au moment où il remettait une contravention à un automobiliste. Il n'y avait pas un seul quartier qui n'était pas touché par les embouteillages, a déclaré récemment la mairesse de Lake Elsinore, Natasha Johnson, à l'hebdomadaire Desert Sun. Nos 5 sorties d'autoroute vers la ville étaient bloquées. L'autoroute était complètement bloquée. Les gens sortaient de leur voiture. Nos secouristes avaient du mal à se frayer un chemin dans la circulation. Nos habitants n'ont pas eu de qualité de vie pendant plusieurs semaines. Les fleurs étaient magnifiques, mais la scène était un cauchemar. Une chance que ça ne se produit pas tous les ans. La mairesse de Lake Elsinore est probablement de votre avis, en effet. Il faut préciser que la sécheresse en Californie ces dernières années a littéralement empêché les graines de fleurs sauvages enfouies dans le sol de germer. Ce qui est néanmoins fascinant, c'est que celles-ci peuvent rester en dormance pendant des années en attendant la pluie. Selon les experts, les superfloraisons permettent d'imaginer à quoi ressemblait la Californie il y a des centaines d'années, mais ces scènes risquent d'être rarissimes dans l'avenir. Que voulez-vous dire? La floraison de 2023 pourrait être la meilleure d'ici la fin de nos jours. Avec les changements climatiques, on ne sait pas vraiment ce qui va se produire, a déclaré Ivan Meyer, directeur de la Fondation Theodore Payne, qui défend la préservation des plantes indigènes au Washington Post. Les effets du changement climatique auront certainement un impact sur ces écosystèmes, ajoute Naomi Fraga. Cela peut entraîner la prolifération d'espèces envahissantes, des sécheresses prolongées et des changements dans les régimes de précipitations. Il est difficile de dire exactement ce qui se passera, mais si nous connaissons des sécheresses extrêmes pendant plusieurs années, ces événements pourraient devenir de plus en plus rares. C'était « Des fleurs visibles de l'espace », un texte d'Éric-Pierre Champagne, paru le 7 mai 2023 dans La Presse.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.vizévoir.com. Cette émission est rendue possible grâce à Gilbert Lepage à la lecture, Francine Thériault à la recherche, Nicolas Zwartmann à la présentation et au montage.